Dans les oreilles aujourd'hui, alors ouvrez-les bien puisqu'on vous emmène comme promis faire une petite balade dans ces quartiers que l'on croit bien connaître mais que l'on ne connaît pas si bien. Je parle notamment du 19e arrondissement et il y en a d'autres dans ce même cas. Alors c'était une balade le dimanche 9 mai, un dimanche matin, un dimanche ensoleillé avec petits oiseaux, odeur de printemps. Ça aurait pu être, on pouvait imaginer donc un départ quoi de plus normal finalement que d'aller se balader un dimanche matin. Sauf que c'était donc une balade dans le cadre du FRAP, le Festival des Résistances et des Alternatives à Paris. Et nous avions rendez-vous avec Anne Clerval. Anne Clerval, géographe, maîtresse de conférences en géographie à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Elle nous avait donné rendez-vous devant la rotonde de la Villette, métro Stalingrad. Alors, ça aurait pu être le départ d'une manif, vu le nombre de personnes qui étaient là. Mais non, c'était une balade dominicale, quoique, comme je vous le disais, c'est pas uniquement des petits oiseaux que l'on va parler. Effectivement, on avait rendez-vous sur les fronts de la gentrification. Alors, qu'est-ce que c'est que la gentrification? C'est un mot un peu barbare qui nous vient des Anglais, puisque gentry, de gentrification, veut dire petite noblesse. Et la gentrification, c'est donc ce processus d'embourgeoisement des quartiers populaires et un embourgeoisement qui se fait par la transformation de l'habitat. Alors, d'où vient cet embourgeoisement? Comment s'explique-t-il? On va essayer de comprendre avec Anne Clerval justement comment on peut l'expliquer, mais aussi comment le repère-t-on? Parce que finalement, en se promenant dans l'espace public, en ouvrant les yeux, on peut très bien vite voir ces signes de l'embourgeoisement de ces quartiers et on va essayer de comprendre, comme je vous le disais, d'où il vient et est-ce que c'est le fruit d'un projet politique ou bien d'un processus social? Vaste programme.
Alors là, je voulais faire un point pour commencer, un point historique. Ici, on est devant la rotonde de la Villette. Et c'est un bâtiment de Ledoux, néoclassique, assez moche, comme vous pouvez le remarquer. Et en fait, c'était un élément de l'ancienne barrière d'octroi, le mur des fermiers généraux. Voilà, c'est simple, la ligne 2 du métro. Vous voyez, tout le monde connaît la ligne 2 du métro. Et bien, ça suit exactement l'ancienne barrière des fermiers généraux, qui était une des enceintes de Paris, qui a été construite à la fin du XVIIIe siècle. Et alors c'était une enceinte assez particulière puisque c'était la seule enceinte de Paris qui n'était pas une enceinte défensive. Elle faisait 3 mètres de haut, donc pour résister aux envahisseurs c'est pas top. Et 1 mètre de large, c'était une barrière financière, une barrière fiscale en fait. Et ça, sachez que jusqu'en 1943, pour rentrer dans Paris, les marchandises payaient une taxe. Donc c'est quand même hyper tardif. Et comme il y avait beaucoup de fraude, évidemment, on a construit ce mur. Et donc il y avait des barrières, donc ici c'était une des barrières, la barrière de la Villette, où on payait l'octroi pour les marchandises. Ça vous explique pourquoi les quartiers qui sont à l'extérieur de cette barrière ont développé énormément des bals populaires, des bars, etc. Parce que justement on ne payait pas le vin, donc le vin était moins cher et donc c'est là qu'on venait le consommer. On sortait des barrières pour aller s'encanailler derrière la barrière. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça marque à peu près la limite de l'urbanisation fin 18e, début 19e. Ça veut dire que les quartiers dans lesquels on va se promener là, ils ont été urbanisés essentiellement au 19e siècle. Il n'y avait pratiquement rien, c'était des champs avant. Et cette barrière a été détruite en 1860, puisqu'en 1860, Haussmann a annexé donc, ce qu'il y a entre là et le périphérique, qui étaient donc des communes en fait, indépendantes, comme la Villette, comme la Chapelle, etc., qui ont été annexées à Paris. Et entre-temps, dans les années 1840, on avait créé une nouvelle enceinte qui était l'enceinte de Thiers sur le tracé du périphérique actuel, qui était là une enceinte défensive, qui nous a beaucoup servi, comme chacun sait. Et donc du coup, on a détruit ce mur-là entre-temps, puisque en 1860, du coup, l'octroi était perçu au niveau de l'enceinte de Thiers. L'enceinte de Thiers était une enceinte défensive et le mur d'octroi. Alors sur la rotonde de la Villette, elle a failli être détruite quand on a construit le métro aérien en 1902, la ligne 2. Et du coup, le métro, vous voyez, fait plein de détours et ça a coûté beaucoup plus cher de le faire. Finalement, elle n'a pas été détruite et pendant longtemps, elle a hébergé la commission du Vieux Paris, qui était justement quelque chose qui essayait de préserver le patrimoine. Et elle a été déplacée, cette commission, en 2004. Elle s'est déplacée dans le 9e. Et depuis, cette rotonde, elle est en cours de réhabilitation pour faire des cafés, un lieu culturel, etc. Et donc, c'est le début de tout ce que je vais vous raconter tout le temps sur tout le parcours, qui est la revalorisation à d'autres fins de ce quartier, qui était donc un quartier principalement ouvrier. Alors, j'ai un autre truc à vous dire. Là, devant, c'est le bassin de la Villette. Derrière, vous avez le canal Saint-Martin. Ça, je pense que tout le monde connaît. Mais juste, ces canaux, ils ont été percés dans la première moitié du 19e siècle Donc exactement, c'est 1825 pour le canal Saint-Martin, 1808 pour le bassin de la Villette. Et ces canaux, en fait, ils forment toute une suite de canaux qui permettent de faire un raccourci sur la Seine, d'aller plus vite au méandre suivant. D'autant plus que pendant très longtemps, la Seine n'était pas navigable au niveau du Châtelet, parce qu'il y avait un pont effondré qui empêchait les bateaux de passer. Donc c'est quelque chose qui a restimulé le commerce et la navigation pour le commerce de marchandises. Et en fait, ces canaux étaient super importants pour l'industrialisation de l'Est parisien. Et c'est un des facteurs du fait que l'Est parisien est principalement industriel et ouvrier pendant donc tout le 19e siècle. Et donc ça montre que tout autour de ces canaux, canal Saint-Martin, bassin de la Villette, canal de l'Ourcq, c'était des usines, des entrepôts, de l'habitat extrêmement populaire fondé sur la spéculation privée, donc c'était que de l'habitat privé de très mauvaise qualité, et donc des quartiers très très populaires, hein, et aussi immigrés, mélangés, etc. Mais bon, l'immigration la plus forte, après, elle arrive plus tard quand même. Hein, c'est, l'immigration du 19e, c'est les Auvergnats. Hein. Mais, c'est important de le dire parce qu'il faut bien penser qu'au 19e siècle, les classes bourgeoises voyaient les Auvergnats et tout ce que vous voulez exactement, et ils avaient exactement le même discours qu'on peut entendre aujourd'hui contre des immigrés. C'est-à-dire que la conscience nationale, l'idée que les Auvergnats sont des Français comme les Parisiens, etc., ça arrive très tardivement. Et on voyait comme des sauvages, etc., avec tous les côtés. Il y avait un racisme exactement de la même manière. Donc c'est important à dire. C'est pour ça que c'était déjà des quartiers d'immigration, en fait, même si c'était beaucoup des Français. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et donc, que le tissu urbain de ce grand quartier de Paris, donc nous, on va en faire qu'un petit bout, il est très marqué par ça. Vous avez pas mal d'emprises ferroviaires très importantes, dont il a été question de les couvrir à un moment ou à un autre. Vous avez pas mal d'entrepôts, d'anciennes usines qui ont donné des friches, etc., qui ont été récupérées. Donc on est dans un quartier en pleine transformation. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment d'anciens bâtiments industriels, un ancien quartier ouvrier, est transformé. Et moi, je vais axer la visite principalement sur le rôle des politiques publiques là-dedans, enfin les opérations publiques là-dedans, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez le canal Saint-Martin, qui s'est profondément transformé à la fin des années 90, ça s'est fait plus ou moins tout seul, entre guillemets. C'est-à-dire c'est essentiellement à l'origine des cafés, de promoteurs privés, etc., que ça s'est transformé. Vous partez avec moi, on va partir en avant et on va aller au MK2 Quai de Seine justement pour parler de ça. Et puis les autres, prenez un peu plus votre temps et on se retrouve à la fin. On a parlé de l'histoire, on va revenir plus près de nous maintenant. Là où je vous ai laissé, c'était très ouvrier, très noir, très pollué, très tout ça, et très populaire. Il n'y avait pas d'arbres non plus. Et alors, on est dans les années 80. Dans les années 80, vous savez peut-être qu'on a ouvert le parc de la Villette, la cité des sciences de l'industrie, etc. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Les abattoirs de la Villette. C'était construit à la fin du 19e siècle et ils ont été reconstruits à la fin des années 60, juste avant d'être fermés. Et donc, quand ils ont été fermés, donc en 74, on a décidé donc de faire un parc cité des sciences, etc. Donc en 86, ils ont ouvert le parc de la Villette, la cité des sciences et de l'industrie. Et en même temps, on a commencé à revaloriser ce bassin. Et le canal de l'Ourcq, qui était encore à ce moment-là très industrieux, hein. Mais par exemple en pavant les berges, en plantant des arbres. Donc première étape de réhabilitation du bassin de la Villette, c'est les années 80. Et alors ce truc-là, le MK2 Quai de Seine, il arrive en 96, donc quand même 10 ans après la première revalorisation. Et il est un peu le premier, à ce moment-là il n'y avait pas tous les petits cafés sympas, il n'y avait pas celui d'en face, etc. Au passage, dans les années 80, il y avait déjà de la spéculation immobilière, genre ces immeubles-là, c'est-à-dire qu'on a détruit aussi des immeubles et on a construit des bureaux et des logements de meilleure qualité, plus chers forcément, aussi sur les côtés du canal. Puisque c'est exactement comme le canal Saint-Martin. Pareil, ça c'était dans les années 70 qu'on a construit les résidences un peu haut de gamme le long du canal Saint-Martin. C'était... C'est-à-dire que le canal, d'à côté, c'était hyper industriel, et etc. Mais quand on le revalorise, ça devient super agréable d'habiter face à une voie d'eau. Hein. Donc, il y avait beaucoup d'appétit immobilier là-dessus. Alors, maintenant, le MK2 Quai de Seine. Alors, vous savez que donc 96, c'est le MK2 Quai de Seine. Et le MK2 Quai de Loire, que je ne dise pas de bêtises, c'était 2005. Voilà, 2005. Alors, Marin Carmitz. C'est super intéressant parce que son itinéraire à ce gars... C'est exactement représentatif de la gentrification, de comment ça se fait, comment on transforme des éléments ouvriers et potentiellement révolutionnaires avec des éléments complètement réactionnaires. Marin Carmitz était maoïste à l'origine, hein, et il a monté, Il a monté, il avait travaillé avec Godard, avec Agnès Varda, etc. dans les années 60. Il avait participé à l'avant-garde cinématographique de l'époque et créé sa maison de production MK2 pour distribuer ses films que personne ne voulait montrer parce qu'ils étaient assez subversifs. Bon, et dans les années 70, il a monté sa propre chaîne de cinéma qui s'appelait Les 14 Juillet. Pour ceux qui se souviennent, moi je m'en souviens, j'y étais allée dans les 14 juillet. Le premier c'était le 14 juillet Bastille, il avait créé aussi le 14 juillet Parnasse où il y avait des illustrations, des citations de Mao sur tous les murs, etc. Et c'était des cinémas d'art et d'essai, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de publicité, évidemment. Il passait des courts-métrages avant le film et puis c'était vraiment une programmation d'art et d'essai. Donc ça s'est étendu dans les années 80-90 et en 98 il a fait un petit virage. Il y a une société de marketing qui l'a aidé à changer, donc il est devenu MK2. Il a fait tout un travail sur son image, etc. Enfin, typique de toutes les chaînes, les grandes chaînes de cinéma ou toutes les industries capitalistes. Il a quand même gardé le rouge et le noir dans le logo MK2 parce que quand même c'est classe et voilà. Et alors, il a fondé son succès, qui est aussi un succès financier, hein, sur justement l'ouverture de cinéma dans des espaces où il n'y en avait pas, dans des anciens espaces populaires. Le MK2 Quai de Seine, le MK2 Quai de Loire et le MK2 Bibliothèque qui est appuyé sur l'opération de rénovation de ce quartier. Et le MK2 Bibliothèque, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est comme un UGC. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a tout, le pop-corn, le machin, bon, voilà. Et aujourd'hui, si vous regardez la programmation des cinémas MK2, il reste quelques films d'art et d'essai, mais il y a de plus en plus des films qui passent dans toutes les chaînes. D'ailleurs, il y a la carte MK2 qui est couplée avec je ne sais plus quel autre truc, l'UGC. Et MK2 s'est associé à UGC pour attaquer des cinémas indépendants comme les Méliès à Montreuil, parce qu'ils leur faisaient concurrence, parce que c'était moins cher, etc. Donc ça veut dire que maintenant, MK2, UGC et Gaumont, même combat. Et que donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait au départ. Et c'est super intéressant, parce que donc au départ, c'est comme si c'était un cinéma d'art et d'essai dans... Enfin, c'est aussi pour ça qu'il faut se méfier. C'est-à-dire que c'est un cinéma d'art et d'essai, on aurait tendance à dire c'est bien, nanana, mais en même temps, c'est aussi un agent de gentrification. Et ici, ça a très bien fonctionné comme ça. La preuve, on en ouvre un autre 10 ans plus tard, on met un petit bateau au milieu, et alors là, ça fait un succès fou, c'est merveilleux. Donc, vous savez peut-être que Marin Karmitz, pour couronner cette belle carrière de trahison, a été nommé par Sarkozy au Conseil pour la création artistique créé en 2009, et que comme par hasard, tout d'un coup, il n'avait plus de critique à faire à la réforme de l'audiovisuel public.
Voilà, on quitte le MK2 Quai de Seine et l'on continue notre balade avec Anne Clerval le long du bassin de la Villette. Bruit de cliquetis et de poussettes.
On va s'arrêter un petit peu avant les magasins généraux là.
Ah oui, ça faut que je le dise aussi.
Il y a plein d'écoles de commerce là, des trucs sub de pub, je sais pas quoi, INSEC, machin. Ouais. Et ça c'est aussi. Et c'est pareil, il y en a plein le long du canal Saint-Martin. C'est assez drôle quoi, c'est pas vraiment leur lieu de prédilection à la base. Mais ils ont senti, c'est eux qui sentent le vent tourner quoi, qui disent là ça va devenir super branché, nanana.
C'est révélateur.
Voilà, exactement. Bah, les péniches ça va, mais il y a surtout un port de plaisance maintenant. Je vais en causer ça. Allez, on y va. Alors, là on est devant les anciens magasins généraux. Alors ça c'est un bâtiment neuf qui n'est pas du tout d'origine, hein, mais l'autre en revanche est d'origine et l'autre était exactement pareil. Hein, c'était les deux étaient pareils. C'est les entrepôts de stockage de grains et de farine qui a été construit aussi fin du 19e siècle pour les denrées donc sensibles, la farine, le grain. Donc des grands entrepôts de stockage qui ont été désaffectés, alors je ne sais pas exactement quand, mais en tout cas dans les années 70-80, ils ont été réinvestis par des artistes, des collectifs d'artistes, et aussi par des agences de communication, des agences d'architecture, etc., qui ont sous-loué ces bâtiments qui étaient bâtiments industriels, friches industrielles assez classiques, quoi. Alors bizarrement, en 90, celui qui était occupé par des collectifs d'artistes a brûlé. Et ça tombe bien parce que ça intéressait beaucoup les promoteurs immobiliers du coin, hein, parce que quand même il y avait beaucoup de fric à se faire avec cet énorme ensemble. Et c'est uniquement depuis l'arrivée de Delanoë à la mairie qu'on en a fait quelque chose. Tout ce que je vais vous... Enfin, à part là, les années 80, certes, mais à partir de maintenant, pratiquement toutes les opérations de réhabilitation, rénovation, gentrification planifiées par les pouvoirs publics, ça date de Delanoë, hein, je tiens à le dire. Et là, en l'occurrence, il y a eu deux opérations distinctes. Une opération de réhabilitation pour le magasin du Quai de la Loire qui a été ouvert en 2006. C'est devenu une annexe de la cité universitaire, donc accueil d'étudiants internationaux. Il y a des ateliers d'artistes, un restaurant, un espace d'exposition. Ça, c'est du côté Quai de la Loire. Et du côté Quai de Seine, il a été complètement reconstruit par des opérateurs privés. Ça c'est intéressant, on utilise la démarche écologique, c'est en HQE, donc haute qualité environnementale, récupération des eaux de pluie, je sais pas quoi. Bon voilà, moi personnellement, malgré une conscience écologique, ça marche pas qu'on fasse un truc en HQE si c'est pour abriter des grandes chaînes capitalistes à l'intérieur, ça ne me séduit pas. Mais donc on a reconstruit ça pour faire trois grandes chaînes quand même, un hôtel Holiday Inn, 2-3 étoiles, un restaurant, la Criée, une auberge de jeunesse. Donc c'est que vraiment des grandes chaînes capitalistes. Et vous voyez, c'est complètement tourné vers le tourisme. Ce qui est assez improbable dans ce quartier, qui n'était pas du tout un quartier touristique, qui est complètement en dehors des itinéraires touristiques classiques à Paris. Paris, c'est la ville la plus visitée au monde. Donc en termes de tourisme, on ne peut pas dire qu'on manquait terriblement d'attrait, de capacité hôtelière, etc. Donc si on a mis ça là, ce n'est pas parce qu'on veut favoriser le tourisme à Paris, c'est parce qu'on veut favoriser le tourisme ici. Et ça n'a rien à voir avec le quartier. Vous imaginez un quartier populaire et au milieu, vous mettez une chaîne 3 étoiles. Enfin, quel rapport ? Bon. Donc, c'est quelque chose de complètement coupé du quartier et qui est lié aux intérêts privés et à une volonté de redorer, de changer l'image du 19e. Ici, on est dans le 19e arrondissement. Le maire, c'est Roger Madec. Il a une vraie volonté de transformer l'image de l'arrondissement, son image, son ambiance et donc sa composition sociale in fine. Et de refaire venir des investissements immobiliers dans cet arrondissement. Là, il a très bien réussi de ce point de vue-là. Ah oui, alors ça, j'adore. Sur le site de la mairie du 19e, c'est écrit que l'objectif de cette opération, c'est d'amener vie et activité sur ce site et de créer une synergie avec l'ensemble du quartier. Alors, pour la synergie, on oublie. Et puis, alors, vie et animation, c'est toujours pareil. Dans les opérations de gentrification, on dit toujours qu'on avait un quartier dévitalisé, mort, etc. Et on va ramener la vie. Donc c'est hyper condescendant, ça veut dire que les gens qui habitent ici, c'est des pauvres, donc c'est mort, d'accord ? C'est super intéressant. C'est toujours le même vocabulaire qui est utilisé. Or, non, un quartier populaire, en général, c'est un quartier très vivant. Il se passe plein de choses, il y a plein de petits commerces, etc. Dire qu'on va ramener la vie par des chaînes 3 étoiles et machin, c'est super scandaleux. Mais ça passe à force de l'entendre, c'est vraiment la nouvelle langue, quoi. À force de l'entendre, on se dit toujours, c'est vrai, maintenant c'est sympa, il y a des arbres, tout ça, des bateaux. Bon. Alors, c'est pas fini. Donc, reconversion touristique. Ici, juste derrière moi, vous avez. Alors, on dit pas Port de Plaisance, on dit halte nautique. Mais bon, c'est la même chose. Donc, la reconversion touristique du bassin, alors déjà, en 2007, à l'été 2007, on a étendu l'opération Paris-Plage, que vous connaissez tous. Vous savez, Paris-Plage, c'est pour les Parisiens qui partent pas en vacances. Voilà. Donc, ici, en été, vous avez du sable, des plages, un petit peu de l'eau partout, c'est merveilleux. Bon, et donc ça, c'est depuis l'été 2007. Et alors, à l'été 2008, on a ouvert cette halte nautique qui est en fait faite pour désengorger le port de l'Arsenal, qui est le port de plaisance de Paris, qui est très engorgé, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir.
Le port de l'Arsenal, c'est l'herbeste.
C'est à Bastille, voilà, c'est ça, c'est à Bastille. Et donc là, il y a 24 bateaux qui peuvent s'arrimer là. Donc vous voyez, c'est pas précisément, a priori, quand vous voyez le coût d'un bateau, le coût de rester ici, etc. C'est vraiment, c'est des classes sociales qui sont pas du tout les mêmes
donc
que celles qui habitent dans le quartier.
Côté.
Ça va bien, vous voyez, ça fait quand même bien. Il y a l'hôtel 3 étoiles, les bateaux, enfin c'est...
5 étoiles.
Et en tout cas, vous voyez, donc là, ça change complètement l'image. Vous imaginez, là, vous aviez des entrepôts, un truc industriel, des ouvriers qui passent, et puis là, il y a les bateaux, machin, donc... Voilà. Mais là, donc, si vous voulez, c'est intéressant parce que l'argumentaire de Roger Madec, c'est de faire de la mixité sociale. Voilà comment on fait de la mixité sociale. On a des riches là, des pauvres là. C'est ça la mixité sociale. Alors, on peut appeler ça de la coprésence. Ouais, il y a bien des gens plus riches qui sont près de gens plus pauvres. Mais ça n'a rien à voir avec la mixité sociale, quoi. Donc, il ne faut pas se laisser leurrer par ça. Et là, on a typiquement une très belle opération de marketing urbain, parce qu'au départ, bon, ces 24 bateaux là qui sont là, ils n'ont pas un impact absolument en termes économiques ou en termes matériels, ça n'a pas un impact énorme, c'est beaucoup plus en termes d'image. C'est-à-dire que quand on y passe, on voit, ça pose une autre image du quartier. Et c'est toujours comme ça que les quartiers commencent à changer. Le canal Saint-Martin, ça a changé parce qu'il y a des patrons de café qui ont lancé des trucs, il y a des petites boutiques qui sont installées. Et ça a d'abord changé d'image avant que des gens viennent s'installer, etc. Et que du coup, d'autres boutiques ouvrent, etc. Mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est complètement public. Ça a été décidé en Conseil de Paris, cette halte nautique, etc. Ça aussi, c'est privé, mais ça a été décidé par le Conseil de Paris de laisser ça à des promoteurs privés. On aurait pu faire du logement là. Parce que je rappelle que ce dont on manque à Paris, c'est pas d'hôtel, c'est pas non plus de lieux culturels, c'est de logement. Il y a 100 000 demandeurs de logements sociaux à Paris. Voilà, et là on aurait pu faire une magnifique opération de logement. Voilà, c'est pas ce qu'on a fait, c'est un choix. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que là ce qui est intéressant avec la cité universitaire, donc qui est dans le magasin du quai de la Loire, c'est qu'on utilise toujours, et ça aussi, je pense qu'il y a des jeunes parmi vous qui sont étudiants, il faut qu'on soit vigilant vis-à-vis de ça. On utilise beaucoup les artistes, les étudiants, comme des agents de gentrification. Parfois, ils sont volontaires, mais parfois, ils le font à leur corps défendant. Mais on les met un peu au front. Hein, voilà. Pour l'instant, c'est pas encore prêt pour que vraiment les cadres et tout ça viennent s'installer. Hein. On vous met là, et puis vous allez nous changer l'ambiance, parce que vous êtes bien sympathique, bien blanc, etc. Ça va un petit peu, parce qu'il y a trop de noir dans ce quartier. Donc voilà, on va mettre plus de blanc. Et puis après, nous, on vient. Et c'est toujours comme ça aussi. Donc il faut, enfin là-dessus aussi, il faut être vachement vigilant. Parce qu'en même temps, on manque de résidences universitaires à Paris. Ça, c'est vrai, hein, de logements étudiants. Mais c'est assez intéressant de voir où ils sont mis. Pas dans le 6e arrondissement, pas près des facs, bizarrement, d'ailleurs. On ouais. Continue ? Par là, en fait.
On continue ? On bifurque, rue Riquet, on va traverser l'avenue de Flandre, direction les Orques de Flandre.
Allez, on a qu'à commencer quand c'est rouge parce que c'est pas facile. Ah, ça sent. Ah oui, des belles tours. Hein. Moi, je les trouve belles, moi. Ouais. Là, je sais pas où on peut. Bon, en même temps, on est au calme, mais.
Les petits appartements.
Ouais, il y en a encore pas mal quand même à Paris, c'est ce qui domine. Ouais, je peux me mettre sur un plot, puis on se met au soleil là, on est
là,
bien.
Là, il y a une nouvelle politique.
Et là... Voilà, alors, ici on est dans les Orques de Flandre, c'est un ensemble de logements. Bon, c'est quand même un ensemble intéressant, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Donc ces tours datent des années 70, elles s'appellent Prélude, Fugue et Cantate, et la dernière n'a pas de nom, alors ça c'est vraiment quand même un peu naze, ils ont... On va l'appeler Symphonie, ou je sais pas, bon bref. C'est les Orgues de Flandre, voilà, donc on est dans l'image de la musique. C'est donc en copropriété, ça a été construit, donc elles ont été inaugurées entre 74 et 80, donc c'est vraiment tout au long des années 70. La plus haute tour a 38 étages et 100 mètres de haut. C'est aussi... Ah oui, alors dans la tour je sais pas, mais en tout là il y a 12 000 habitants. Donc c'est vraiment une petite ville dans la ville, c'est très dense. Bon, en même temps, c'est intéressant, c'est un vrai choix de la densité pour créer des logements sociaux. C'est les choix qu'on faisait dans les années 70 quand on créait des grands ensembles. C'est intéressant d'être ici parce que le 19e arrondissement dans lequel on est, c'est l'un, avec le 13e arrondissement, c'est l'un des deux arrondissements de Paris où il y a le plus de logements sociaux, 35% exactement. Vous savez que la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000 fixe un objectif de 20%. Bon, cet objectif, il est inscrit dans la loi, mais tout ce qui était sanctions, enfin toutes les méthodes pour l'appliquer ont été vidées par la droite. Donc en fait, c'est un objectif qui est un vœu pieux. Si on a envie de le faire, on peut le faire. C'est ce que fait Delannoy, c'est-à-dire il dit ben, « moi, je vais faire les 20% de logements sociaux ». Ce à quoi il va certainement réussir à faire, hein, mais on va en reparler après sur qu'est-ce qu'on entend par logements sociaux, etc. Alors ici, il ne faut pas se planter, c'est pas du tout que des logements sociaux. Les tours sont en copropriété. Hein, donc c'est en fait c'est trois tours de logements en copropriété et autour des logements sociaux avec aussi pas mal de logements intermédiaires qui étaient ce qu'on construisait le plus dans les années 80-90, c'est-à-dire des logements financés par la puissance publique mais pour plutôt des classes moyennes et qui maintenant depuis la loi SRU de 2000 sont sortis du comptage des logements sociaux. À la place on a créé un nouveau truc qui permet de refaire des trucs un peu pour les classes moyennes et de les compter dans les logements sociaux. Bon, j'y reviendrai plus tard sur vraiment les logements sociaux. Bon, là, on est dimanche matin, donc ils dorment, mais quand même, il y a des petites bandes de jeunes, il y a des rixes entre les bandes de jeunes, il y a des flics qui arrivent régulièrement pour taper quelques... Voilà, enfin, c'est l'image classique qu'on a, qui est une image de la banlieue. Et même nous, voilà, cette architecture, elle nous fait penser à la banlieue. Pourtant, on n'est pas en banlieue ni rien. Hein, mais... Oui, bah, en fait, dans les logements sociaux, on a la même évolution qu'on peut avoir en banlieue, hein, qui est des logements de relégation où il va rester que des familles très populaires, donc souvent immigrées. Puisque à Paris, en tout cas, les ouvriers sont principalement soit étrangers, soit d'origine étrangère. Donc c'est un amalgame qui est tout à fait valable pour Paris de dire que les classes populaires sont des étrangers. C'est-à-dire que voilà, c'est et des étrangers ou des immigrés, des gens qui ont la nationalité française, mais qui sont d'origine étrangère. Donc c'est assez intéressant parce que la politique de l'État comme de la mairie, si vous voulez, une politique contre les classes populaires ou une politique contre les étrangers, c'est la même chose à Paris. Et d'ailleurs, ça se marie très bien. C'est-à-dire que le fait de fermer les frontières, de faire des rafles de sans-papiers, etc., c'est la même chose que de vouloir virer les pauvres des quartiers populaires. C'est la même chose. Donc quand vous êtes à Château-Rouge et qu'il y a des flics en permanence, des rafles en permanence, etc., c'est aussi un truc pour virer les Africains. Or, virer les Africains, c'est aussi ce que veut faire le maire du 18e, parce qu'il y a trop de Noirs et que ce n'est pas un quartier normal du coup. Enfin, c'est un peu ce qui est dit. Hein. Malheureusement, on n'ira pas jusqu'à Château-Rouge, mais il y a des associations de nouveaux propriétaires dans le 18e, dans Château-Rouge, qui veulent normaliser le quartier. Normaliser le quartier, c'est voilà, on habite là, on a payé pour avoir notre logement, on veut un quartier comme les autres. Et un quartier comme les autres, je suis désolée, il n'y a pas autant de Noirs autour. Voilà, donc c'est horrible, et c'est du racisme. Et le maire, il n'est pas clair du tout non plus dans ses discours. Il utilise des rhétoriques qui sont quand même du racisme un peu soft. Quoi.
Ce qu'on veut dire, c'est que c'est différent ici.
Oui, alors ce qui est intéressant, voilà, c'est le contraste qu'il y a. Je ne sais pas si vous avez regardé quand on se promenait rue Riquet, on ne croise pas les mêmes personnes, on n'est pas dans la même ambiance que sur le bassin de la Villette. Pour l'instant, c'est encore, on est sur le front de gentrification, c'est-à-dire qu'on est là où c'est en train de se faire. On revient dans 10 ans, ce sera différent. Si vous allez dans les rues adjacentes au canal Saint-Martin, avant, par exemple, à la fin des années 90, début des années 2000, vous aviez la même chose, le canal Saint-Martin un peu voilà, branché, là, là. Puis dans les rues adjacentes, plutôt des immeubles un peu tristounes, et puis des gens qui ont l'air populaires. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est donc que dans le 19e, on a tout un parc de logements sociaux qui est a priori pas vraiment gentrifiable pour l'instant. Et on a l'habitat privé qui est de très mauvaise qualité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme opération publique? Des trucs comme le bassin de la Villette, tout ce qu'on a vu là. C'est-à-dire quelque chose qui est censé avoir un effet d'entraînement pour la gentrification dans le parc privé qui va se faire en dehors des pouvoirs publics. C'est pas les pouvoirs publics qui vont dire, voilà... Enfin, ils n'ont pas de prise là-dessus. Mais bon, ça se fait un peu tout seul, et là, on accélère, on encourage le fait que ça se fasse. Mais même sans la vente à la découpe, tout simplement la vente d'individu à individu, vous savez comment ça marche, on réhabilite son logement, on le revend vachement plus cher, etc. C'est comme ça que ça marche, la gentrification. Et sans qu'il y ait forcément de mauvaises intentions. C'est-à-dire, c'est pas forcément des gens qui vont spéculer, hein, c'est des gens qui vont s'acheter un logement, nanana, mais de fait, il suffit qu'on le refasse une fois pour qu'il devienne inaccessible aux classes populaires ou même aux petites classes moyennes. Aux anciens occupants, voilà.
Je crois qu'on peut sortir.
Ouais. C'est vrai que ça fait un peu fermé alors qu'en fait c'est ouvert.
Oui, là, au niveau du coup d'en parler, on arrive pile sur le centre.
Ah ben voilà, c'est justement l'étape suivante. Quelqu'un
vient de me dire.
Ça tombe bien.
Sable rouge dans ses filons d'argent, sur ses décharges publiques, nous errons sur ses collines de sel et douce, sous le soleil exactement, pas à côté, pas en dessus. Le vieux monde se moque, nous l'entendons pas rire. Le vieux monde se moque, nous l'entendons pas rire. Chair à canon, érigeant des tumulus et des sanctuaires, adorant des dieux impossibles et le flouze encore. Nos villes balayées par des vents venus du désert, où d'autres hommes boivent du sable. Tu peux rêver, voyageur, ça mange pas de pain. vieux monde se moque, nous ne l'entendons pas rire. Le vieux monde se moque, nous ne l'entendons pas rire. Baleine franche, un morceau de poisson séché, un bout de chien et l'esprit du renard. Nous autres, encore, nom de Dieu! Crache-lui pas dessus, connard. Le vieux monde se moque. Le vieux monde se moque. Va y avoir du grabuge car il reste des gredins. Va y avoir du grabuge, du frontal sans subterfuge. Va y avoir du grabuge, car il reste à relever la tête. Va y avoir du grabuge, va y avoir du grabuge. Procédons à la répartition des richesses.
C'était le vieux monde des Barbarins Fourchus. On continue, vous êtes toujours sur les oreilles loin du front dans Fréquence Paris Pluriel et on continue notre balade dans le 19e arrondissement de Paris à l'affût de tous ces signes de gentrification, c'est-à-dire d'embourgeoisement des quartiers populaires par transformation de l'habitat. Nous sommes sous la houlette d'Anne Clerval, géographe. À pas de course, nous nous dirigeons vers le 104 et la rue d'Aubervilliers.
C'est bon là, on est là. Donc on est là dans un ancien bâtiment des pompes funèbres, ce que vous savez certainement tous, qui avait été construit sous la houlette de Baltard en 1874, et ça, c'est de l'architecture industrielle. Comme des halls de gare, etc., les cathédrales du temps moderne, n'est-ce pas? Toujours est-il que le bâtiment a été désaffecté depuis un certain moment et le projet de reconversion, il est apparu qu'à la fin de la première mandature de Delanoë. Le projet initial, c'était de faire un équipement de quartier, un établissement culturel avec les artistes des 18e, 19e, 20e ouverts sur le quartier. Et puis, ça, c'est pas ce qui s'est fait. Finalement, on a donné la direction à deux directeurs qui s'appelaient Cantarella et Fischbach. C'est ceux qui ont démissionné pas longtemps parce que l'établissement est en faillite. Voilà. Et donc, les deux sont au théâtre et en fait, ils ont changé la nature du projet. C'est devenu un projet d'artistes en résidence internationaux, déjà connus. Et donc, c'est plus du tout la même chose. Quant à l'ouverture sur le quartier, elle est quand même très relative. Il y a un espace qui s'appelle le 5. C'est des studios qui peuvent être loués pour 2 euros de l'heure par des habitants du quartier, des associations du quartier. Mais enfin bon, voilà quoi, c'est un lieu, si on a un projet, on peut faire quelque chose. Mais après, comme pour faire venir les gens, c'est un peu limite quoi. Alors ici, on a un espace qui fait 39 000 mètres carrés, donc c'est énorme. C'est une aberration écologique au passage, parce que c'est chauffé énormément, mais c'est quand même mal chauffé, et donc c'est un gaspillage innommable. Là-dedans, il y a des artistes en résidence, un restaurant, un café, quelques commerces, mais bon, pas des masses. Et donc, c'est les ateliers du 5. Donc, il a ouvert en 2008, en octobre 2008. Ça a coûté la bagatelle de 102 millions d'euros, ce qui correspond au quart du budget alloué au logement social à Paris pour la même année, en 2008. Or, là encore, je le redis, on manque plus de logements sociaux que d'établissements culturels de premier rang à Paris. Au départ, il y avait quand même l'idée aussi de faire un établissement culturel dans ces espaces, et pareil, qui sont sans culture. C'est quand même l'idée que s'il n'y a pas d'établissement culturel, ben, il n'y a pas de culture, alors qu'il y a la culture populaire et qu'il y a tout à fait plein de cultures vivantes et qu'au contraire, en expulsant les gens, et ben, on appauvrit la richesse culturelle de ces quartiers. Et là, il faut vraiment aussi penser que la culture est utilisée comme agent de gentrification. Hein, les artistes sont souvent des pionniers dans les découvreurs de quartiers, parfois tout seuls, hein, parce qu'ils cherchent tout simplement des ateliers pas chers. Mais bon, en même temps, ils changent l'ambiance du quartier. Et après, les promoteurs arrivent derrière et disent « Oh, mais c'est très bien votre truc. Tiens, on va faire des logements haut de gamme, etc. » Et là, l'établissement culturel, de toute façon, qu'il soit de quartier ou de renommée internationale, comme il est plus ou moins devenu, puisque ça ne marche pas, c'est un vrai facteur de gentrification. Le but, c'est de faire venir des populations blanches de classe moyenne, ici, qui passent dans la rue d'Aubervilliers, qui était quand même un haut lieu de deal, etc. Donc un lieu très populaire, plutôt peu fréquenté, plutôt repoussoir, qui viennent et qui changent par le fait au moins des allers-retours entre le métro et le 104, qui changent l'ambiance du quartier. Bon, ça marche pas très bien, de fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. C'est principalement assez vide. Donc là encore, une volonté de changement d'image. Vous voyez que là, l'action publique, elle n'est pas, à nouveau, elle n'est pas pour créer des logements. C'est-à-dire, on ne fait pas des logements qui vont faire venir les classes moyennes. On fait un établissement culturel, un jardin, un machin, pour faire venir les gens. Et l'idée, c'est que les gens viennent et se disent « Ah, mais en fait, pas mal ce quartier. » Et puis, ça tombe bien, parce que c'est là où sont les logements les moins chers de Paris. Pour l'instant, on ne peut pas y vivre, on ne connaît pas. Mais maintenant qu'on y est allé plusieurs fois au 104, on pourrait peut-être acheter un logement dans le coin. C'est vraiment un vrai truc, c'est un truc d'appât pour que les gens viennent, qui se disent « Mais finalement, ouais. » Et c'est en effet les logements les moins chers de Paris, donc toutes les classes moyennes qui peuvent à la rigueur acheter, c'est là qu'elles peuvent acheter, et éventuellement ça les aide à s'acclimater. Parce que sinon ils n'étaient pas dans le quartier. Hein. Donc ouvert le 11 octobre 2008, le 104 est aujourd'hui en faillite. Les deux directeurs ont démissionné, parce que ça marche pas. C'est con. Et alors depuis le 1er avril, il y a un collectif d'artistes qui occupe le 104. Justement, il y a deux jours, ils ont fait un forum qui s'appelle « Un autre 104, est-il possible ?». Ils revendiquent carrément la direction de l'établissement pour changer justement l'orientation, faire quelque chose peut-être plus en lien avec la population, plus avec les artistes pas trop connus encore. Ils ont un site internet qui s'appelle le 104 Occupé, si vous cherchez 104 Occupé. Et ils ont fait un travail assez intéressant sur toutes les entraves à la circulation. C'est-à-dire tous les dispositifs de surveillance et de fermeture dans cet espace qui est censé être un espace ouvert et un espace de passage. Ça s'appelle l'espace public empêché, c'est assez bien. Donc il y a toute une réflexion là-dessus. Et souvent, quand on crée des dispositifs comme ça pour changer l'image du quartier, ça va aussi avec de la surveillance. Alors de la manière la plus subtile possible, qu'on ne se sente pas trop oppressé quand même. Mais voilà, il y a quand même tout ça avec parce qu'on est quand même dans un quartier de classe dangereuse, il ne faut pas l'oublier. Bon, allez, on continue.
Ouais, mais de toute façon, ce ne sera jamais plus la maison des ensembles. Vous rêvez, là, les mecs, tu vois. Hein, c'est fini, la rue du dragon.
C'est pour là, de faire les deux bouts.
C'est pas grave,
j'ai une question.
J'arrive pas de faire.
Regarde,
mais
juste
non, il est
là,
fermé.
Ah, il est fermé.
Regarde, oui, j'aurais dû y aller tout de suite.
Là, il y a les bagnoles.
C'est sympa, le paysage.
Non, parce que je veux parler de Paris Nord-Est, mais c'est vrai que là, il y a les voitures, c'est pas terrible.
Bah on les arrête, on se
met bah là-bas et tu nous en parles.
Ouais, je vais aller dans le jardin, puis j'en parlerai dans le jardin parce que là, c'est bruyant. Hein. Allez, direction le jardin.
Attendez. On va être poursuivi là.
Je vais vous parler de deux choses ici. Donc, je vais vous parler de Paris Nord-Est, ce fameux grand projet. Et après, je vous parlerai des jardins d'Éole ici. Alors, pour Paris Nord-Est, en fait, c'est au bout de la rue d'Aubervilliers, tout là-bas. Au bout de la rue d'Aubervilliers, on tombe sur la porte d'Aubervilliers. Vous avez les entrepôts McDonald's. Rien à voir avec McDo. Ça, ils sont détruits. Bah voilà. Donc, entre la porte de la Chapelle et la porte de Pantin, 18e, 19e, le projet Paris Nord-Est, c'est 200 hectares. C'est le plus grand secteur d'aménagement aujourd'hui à Paris. Et ça a été programmé dès 2002, mais ça commence vraiment depuis la seconde mandature. Et il y a plusieurs éléments qui se croisent. Au départ, il y a la politique de la ville, c'est-à-dire que ce sont des quartiers où il y avait des logements sociaux, puisque c'était l'ancienne zone des fortifs, c'est-à-dire l'ancienne zone de l'enceinte de Thiers, où on a construit énormément de logements sociaux quand on a détruit les enceintes. Donc des quartiers sensibles, puisque pauvres, etc.
Puisque situés entre le périph'
Et en plus, très bien situé. Voilà. Et donc, ils sont classés en quartier sensible, dans ce qu'on appelle la politique de la ville, et qui n'a rien à voir avec une politique de la ville, hein, qui est une plus ou moins politique de gestion de la pauvreté en ville. Et alors, au départ, c'est donc un GPRU, c'est-à-dire un grand projet de renouvellement urbain. Et c'est en fait ce qu'on fait en banlieue aussi. C'est-à-dire, c'est un peu la rénovation urbaine. Vous savez, on détruit une tour par-ci, une tour par-là, on essaie de faire trois espaces verts et on pense que tout ira mieux. Et si possible, on éparpille les pauvres. Parce qu'on ne sait pas éliminer la pauvreté, hein, ce n'est pas vraiment l'objectif ni de la droite ni de la gauche aujourd'hui. Donc ce qu'on peut faire, c'est les disperser. Parce que là, si on les disperse, on sait à peu près les gérer. Il ne faut pas qu'ils soient trop concentrés dans un même endroit. Donc la politique de renouvellement urbain, c'est une politique de dispersion, de saupoudrage des pauvres un peu partout pour que chacun en prenne un peu en charge. Donc là, au départ, c'était ça. Ça veut dire donc créer des nouveaux équipements, améliorer le cadre de vie, etc. Mais ça s'inscrit aussi dans le projet de la Noé de mieux collaborer avec les communes limitrophes. Vous savez, c'est le grand truc de la Noé. Nous, on n'est plus fermés, nanana, on est copains. Donc, il y a aussi les communes de Seine-Saint-Denis, résorber la coupure matérielle du périphérique. Ça tombe bien puisque à Saint-Denis, dans la plaine Saint-Denis, on fait plein de logements haut de gamme pour les cadres et tout. Donc, on va bien résorber. Hein, c'est-à-dire qu'on va tout gentrifier comme ça sera super bien résorbé. D'ailleurs, il y a un autre projet dans le même genre, c'est à Porte des Lilas, où on va couvrir le périphérique. Et on va faire du logement plutôt bien et tout. Et donc, voilà comment on résorbe. Hein, on essaie d'étendre la gentrification. Alors, ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est plus qu'un le GPRU. Hein, ce projet Paris Nord-Est, c'est faire un nouveau pôle tertiaire comparable à la Défense. Bon, ce ne sera jamais aussi important qu'à Défense. Mais pour info, c'est là où ils veulent faire éventuellement des tours. Et donc, ce serait un pôle tertiaire avec des bureaux, des universités, puisqu'il est question de déplacer Paris 1 et le HESS. Et au passage, ça c'est super intéressant aussi parce que Paris 1, le HESS, c'est des universités qui sont centrales dans Paris. Et ça permet de les évacuer du centre, de libérer des emprises foncières publiques qu'on va vendre au plus offrant et donc en faisant pas mal de monnaie fraîche. Et qu'on met plus loin, là, vers Aubervilliers. Là encore, on s'en sert comme des agents de gentrification. Parce que tous ces étudiants là de l'HESS et de Paris 1, on espère qu'ils vont bien faire leur boulot, mettre de la bonne ambiance là-bas et qu'après, du coup, des cadres vont vouloir aller s'installer à côté. Et aussi, au passage, le HESS Paris 1, récemment, avec le CPE, tout ça, ils ont un peu fait chier. Hein. Il y avait quand même l'occupation de l'HESS. Tolbiac, ils n'arrêtent pas toujours de bloquer les ascenseurs pour un oui, pour un non. Bon, donc l'objectif aussi, c'est de les virer aussi du centre de Paris. Donc c'est triple opération. Quoi. Là, on fait un super truc. Donc pour info, il n'y aura que 40% des surfaces qui seront consacrées au logement et là-dedans, 50% de logements sociaux. Donc la mairie communique en disant « on va faire des logements sociaux », mais en fait, il n'y en aura pas beaucoup par rapport à l'emprise que ça représente. Et au contraire, on peut penser qu'en faisant un pôle tertiaire de bureaux, d'universités, etc., ça va énormément revaloriser cet espace périphérique de Paris et donc contribuer à la gentrification à la fois à l'intérieur de Paris et dans les communes limitrophes. Puisque la gentrification, vous l'avez peut-être observé, ça a déjà commencé à Montreuil, ça a déjà commencé à Pantin. C'est en train de balbutier à Aubervilliers. Là, on va vous aider, les gars. Allez-y, gentrifiez. Puis, alors, là, la rhétorique de la mairie, elle est très claire. Hein. C'est Paris, capitale engagée sur la scène internationale, tiendra sa place dans la compétition entre les métropoles. Donc là, on est loin des enjeux sociaux et compagnie. Hein. Le but, c'est d'être plus fort que Londres. Alors, au départ, Paris Nord-Est, là, c'était le site prévu pour les Jeux Olympiques de 2008 qu'on n'a pas eu, vous savez. Voilà. Alors, pour se venger, on va faire un pôle tertiaire où on sera plus fort que Londres, comme ça, voilà. Et donc, il doit y avoir une nouvelle gare du RER E. Il y a l'extension du tramway qui va aussi arriver sur les Maréchaux à cet endroit-là. Donc, ça va devenir un nœud de communication. Et il y aura aussi une liaison rapide avec l'aéroport pour que tous ces charmants hommes d'affaires puissent venir rapidement dans leur bureau.
Il y a l'aménagement qui est prévu sur la voie qui part de la Villette sur 4 km direction Aubervilliers.
Ah mais le canal Saint-Denis, c'est là où il y a la CIP qu'est le Charente. C'est pour ça qu'on aimerait bien qu'ils hein, s'en aillent parce qu'ils font pas beau dans le paysage, qui est menacé d'expulsion. Alors, maintenant je vous parle un peu des jardins d'Éole. Donc ici on est sur une ancienne friche de la SNCF hein, qui fait 4 hectares. Et en 97, il y a un collectif d'habitants qui s'est créé, qui a créé une association qui s'appelle l'Association des Jardins d'Éole. Avant même, ce n'était pas du tout un jardin, c'était donc une friche. Et qui justement voulait promouvoir la création d'un parc public. Et pour le promouvoir auprès des pouvoirs publics, a fait plein d'animations, des fêtes, des opérations de nettoyage de printemps, etc. En associant les habitants pour se réapproprier ce lieu qui était nommé la Cour du Maroc par les habitants. Alors, ils ont tellement bien œuvré qu'en 2001, c'est devenu une promesse électorale de Delanoé et il l'a tenu. Comme quoi les socialistes tiennent parfois leurs promesses. Quand il s'agit de faire un espace vert. Bon. Et alors, le nouveau jardin, il a ouvert en mai 2007. Donc ça fait 42 500 mètres carrés. Et il y a une partie qui est toujours ouverte. Là, la partie où on est, elle est fermée voilà, la nuit. Mais là-bas, il y a une partie qui est toujours ouverte. Et il y a même un jardin partagé au milieu qui s'appelle le Trèfle d'Éole. En fait, ici, c'était une scène ouverte de drogue, donc deal et consommation sur place, pendant les années 90, en fait, autour de Stalingrad, la rotonde de la Villette, et puis ici, près de Stalingrad. Donc, il y avait pas mal de violence et puis aussi des toxicomanes au milieu de la rue, donc notamment autour du crack, qui a été déplacé à Châteaurouge, puis à Saint-Denis, aujourd'hui. Et du coup, la principale crainte, c'est que ça devienne un lieu de consommation de drogue, d'où le fait que c'est fermé en partie et que la partie ouverte a quand même des fondations pour qu'on puisse créer un mur du jour au lendemain si nécessaire. On ouvre, mais il faut quand même pas trop. Et donc l'idée, c'est de... Il y a aussi une buvette associative qui anime un peu, mais ça marche pas très bien parce que la rue d'Aubervilliers est très bruyante, comme vous avez pu le constater. Donc la buvette, elle marche pas très bien. Le but, c'était de faire qu'il y ait une appropriation des habitants, etc., pour éviter justement les toxicomanes. Bon, le fait est que la scène de drogue, elle a été virée entre-temps, donc il y a beaucoup moins de risques là, maintenant. Alors là, c'est dommage qu'on ne soit pas avec Jean-Pierre Garnier parce que il sait où sont. En fait, il y a plein de caméras de vidéosurveillance planquées dans ce jardin. Et il sait où elles sont.
Regardez dans le
château. Voilà, donc, et en plus, c'est planqué, donc c'est encore plus pervers. Alors, oui, vous savez que ça s'inscrit dans le plan 1000 caméras de Delanoë, hein, qui veut créer plein de caméras de vidéosurveillance partout. Et alors, là-bas, on y passera devant, mais je vous en parle maintenant. Il y a deux pavillons désaffectés que vous avez peut-être vus tout à l'heure dans la perspective, qui sont là en cours de réhabilitation. Qui était, donc il faisait partie de la friche, qui était au départ occupée par des associations, notamment Fréquence Paris Pluriel, qui nous enregistre en ce moment, là. Et il y avait Zaléa TV, qui n'existe plus maintenant, Réseau 2000, qui, était une association, qui est toujours une association d'insertion par le numérique et tout. Ces associations ont aujourd'hui été relogées 1 rue de la Solidarité, dans le 19e, donc près de la place David d'Angers. Voilà, c'est le premier pôle de médias alternatifs d'Europe. Ce qui est intéressant, c'est que dans un des pavillons, il y avait un projet des Verts, mais des Verts et des associations écolos, de faire une maison de l'environnement, qui a été contrée par les socialistes pour faire une école de la deuxième chance. Donc l'école de la deuxième chance, c'est pour les élèves qui sont expulsés, qui sont renvoyés, etc., ou qui ont raté le bac 3 fois, ou je sais pas quoi, et donc pour genre, allez, on va vous récupérer. Sauf que l'école de la deuxième chance, elle est un peu en stand-by, et aussi de faire une crèche. Alors, là, on va continuer un petit peu jusqu'à une résidence étudiante.
Alors, c'est par où va-t-on ?
Est-ce qu'on passe par là ? Parce que moi, je voulais vous montrer la rue.
Mais montez-nous la rue parce que le jardin, on pourra revenir.
On sort des jardins d'Éole, gravier sous les chaussures, rue d'Aubervilliers. Petit pincement de cœur devant l'ancien bâtiment de FPP. Tiens, là aussi, un effet de la gentrification du quartier. Voilà, on arrive vers la dernière étape de notre balade avec Anne Clerval.
Ici, on est donc presque au bout de la rue d'Aubervilliers. Si on continue, on est à la station Stalingrad. On est très vite arrivé. Et on a d'un côté, donc de ce côté-là, côté 19e, parce que là, c'est la limite entre le 19e et 18e. Ici, vous êtes dans le 18e, vous aussi. Mais là, on est dans le 19e. Et là, de ce côté-là, il y a le passage Gois, qui est un petit îlot. Et là, il y a l'îlot Caillé, qui est un autre îlot. D'accord ? Donc deux îlots qui avaient le nom de leur propriétaire, tout simplement. Hein, le Gois et Caillé, c'est les mecs qui ont bâti ce truc-là. Voilà, qu'on lotit en fait un champ, hein, au départ, et qu'on fait du logement, des immeubles de rapport, c'est-à-dire on bourre la parcelle, on met le plus de logements possible dans des matériaux les moins chers possibles, donc de basse qualité, et on met là-dedans une famille ouvrière par chambre.
Quelle période ça, la construction ?
19e. Plutôt fin 19e d'ailleurs, je pense, pour ces deux ensembles-là. Donc évidemment, comme c'est des matériaux de mauvaise qualité qu'évidemment on n'entretient pas, ça se dégrade très vite. Au départ, c'était sans confort. Bon, après, on a fait l'adduction d'eau et tout, mais au départ, il y avait peut-être juste un puits. Et puis voilà, enfin, c'est comme ça qu'on logeait les ouvriers au 19e siècle. Donc, il y a peut-être eu quelques éléments de confort en plus, mais il y avait certainement des logements encore inconfortables. Et surtout, c'était extrêmement dégradé. Voilà. Mais il y avait toujours des gens qui vivaient dedans. Alors ces deux îlots donc qui sont un peu l'entrée de la rue de Vervilliers faisaient tache, parce qu'ils étaient très dégradés, et que quand même c'est pas là qu'on passe pour aller au 104. Ah. J'exagère parce que ça avait été prévu avant, donc c'était deux opérations de rénovation où on démolit, on reconstruit. C'est ce qui est devenu assez rare aujourd'hui à Paris, hein. On fait plutôt de la réhabilitation, on fait plus les grosses opérations des années 70, des années 80 où on rase et on reconstruit. Bon, là c'est sur des petits îlots, donc c'est pas trop, voilà, c'est assez, et on préserve la rue, on garde le même parcellaire, etc., et la même hauteur d'immeuble que ce qu'on avait initialement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est, enfin, toutes les opérations publiques de rénovation à Paris, c'est pour faire du logement social. Hein, alors qu'on pourrait faire des opérations publiques où on donne ensuite un promoteur privé qui fait du logement haut de gamme, on sait pas ce qu'on fait. Maintenant, quel logement social ? Donc ici, quelques éléments. Donc le passage Gouin, donc ce qui est de ce côté-là, côté 19e, ça a été terminé en 2008. Il y a 140 logements, des ateliers d'artistes, et une école maternelle et une halte garderie. Quelques commerces aussi en pied d'immeuble, mais pas beaucoup, vous allez voir. Le constructeur, c'est la Sagi, c'est un ancien bailleur HLM. Mais en 2006, il y a eu une réorganisation des bailleurs sociaux à Paris, où la ville s'est retirée de la Sagi, l'a laissée donc aux investisseurs privés, qui sont la BNP et le Crédit Foncier, et a réinvesti tout son capital dans la RIVP. C'était deux grands bailleurs, il y avait l'OPAC qui est complètement public, la RIVP et la Sagi. Donc la Sagi maintenant est devenue une SA, hein, une société anonyme, et c'est complètement privé. Et puis la RIVP, elle est au contraire majoritairement publique. Puisque sinon, la mairie, c'est typique des montages financiers des années de droite. C'est-à-dire que c'était des sociétés d'économie mixte où la mairie avait une participation financière dans la SAGI et dans la RIVP, mais toujours minoritaire. Donc c'est-à-dire qu'elle décidait de rien et que c'était géré comme le voulaient les investisseurs privés. Donc là, il y a quand même eu un truc où on se dit, bon, on en reprend une, où là, on a le contrôle, et puis l'autre, on la lâche. Et ça sera vraiment, vraiment privé. Ouais. Et en l'occurrence, ce que ça permet quand même, c'est que la SAGI, du coup, construit du logement intermédiaire et continue de construire du logement intermédiaire, donc qui n'est plus compté dans le logement social et qui est vraiment pour les classes moyennes, voire supérieures. Et ici, ça, c'est du logement intermédiaire. Là, on est côté îlot Caillé, les deux immeubles que vous voyez là, c'est du logement intermédiaire. Il y a un nouveau Franprix en pied d'immeuble. Et ça, c'est pour des ménages de classe moyenne et supérieure. C'est absolument inaccessible aux classes populaires. Donc c'est public, enfin voilà, c'est une opération publique, on fait plutôt du logement social, mais en fait c'est pas vraiment du logement social parce que c'est du logement intermédiaire, vous voyez, bon, il y a plein de subtilités. Alors on regardera en passant, vous verrez que c'est l'architecture assez sécurisée, il y a pas mal de grilles, etc. C'est bizarre, les pieds d'immeuble côté passage Gouin ne sont pas utilisés, donc c'est muré avec des colonnes, il y a des colonnades et des murs, donc c'est super sympa. Ah non, non, tu vas voir les grilles, c'est là-bas, elles sont toutes noires, et tu as une petite impasse fermée, ça fait vraiment gated communities pour ceux qui savent, c'est-à-dire les communautés fermées. Bon, c'est pas ça parce que c'est du logement social, mais ça fait vraiment communauté fermée, voilà, on a notre petit jardin, tout ferme. Bon, c'est bizarre quoi. C'est ce qu'on appelle la résidentialisation, voilà, qui est en fait la privatisation des logements sociaux. Mais c'est plus chic de dire résidentialisation.
Oui, bah, c'est une privatisation de fait, mais ce qu'ils appellent proprement la résidentialisation, c'est comment des espaces publics, une partie des espaces publics, notamment ceux qui sont au pied des immeubles, sont, comment dirais-je, deviennent inaccessibles parce qu'on met des clôtures, des barrières, et somme toute, on donne l'impression aux gens qui habitent au niveau d'une cage d'escalier ou d'un immeuble d'être propriétaire, non pas juridiquement, mais pratiquement, d'un petit jardin, un petit jardinet qui se trouve au pied d'immeuble. Et l'objectif, entre autres, est d'empêcher les racailleux de tenir les murs. Parce que, précisément, ils sont tenus à distance des murs grâce à ces processus. La cité modèle étant la cité des merisiers, vous pouvez visiter. Et là, vous recevrez peut-être des carrières sur la gueule, parce que c'est plus dans les architectes qui viennent.
C'est où ?
À Aulnay-sous-Bois.
La résidentialisation, stricto sensu, c'est le fait qu'on a, dans un ensemble de logements sociaux, on privatise une partie, donc des jardinets, des cours ou des halls d'immeubles. On met des clôtures, en fait, pour que les résidents de chaque immeuble se trouvent, ils se disent, là, c'est chez moi, voilà, ici, il n'y a que moi qui ai droit d'entrée et pas les gens de l'immeuble d'à côté. Mais en fait, c'est un concept qui vient d'Angleterre. En Angleterre, ça s'accompagne du fait qu'on privatise les logements sociaux. Donc en France, on le fait sans encore privatiser les logements sociaux. Parce que c'est encore très embryonnaire en France, la privatisation des logements sociaux. Enfin bon, on se dit que c'est l'étape d'après. Hein. Donc c'est un peu le même esprit. Et pour bien marquer que c'est privé, il y a une clôture. Normal. Donc voilà, c'est propriété privée. Alors juste là, pour cet îlot-là, l'îlot Caillé, le constructeur, c'est la SIEMP. La SIEMP, c'est une société d'économie mixte de Paris qui est chargée précisément de l'éradication de l'habitat insalubre. Et les logements sociaux, c'est ceux qui... Vous allez voir, on va passer, il y a des parcelles complètement vides qui vont être construites et c'est peut-être là qu'il va y avoir les logements sociaux. Donc il prévoit là aussi 145 logements. il faut bien avoir conscience que quand on crée du logement social, on crée toujours vachement moins de logements que ce qu'on en détruit. Aujourd'hui à Paris, il n'y a pratiquement plus d'emprises vides. Donc quand on crée du logement social, on a forcément détruit. Ou alors on a réhabilité, mais par exemple, il y avait 100 logements et on en crée 50 et encore, bon. Et en plus, dans les 100 logements, il y avait vachement plus de gens qui vivaient parce qu'ils étaient en état de surpeuplement. Alors voilà, on peut penser ce qu'on veut du surpeuplement, mais ça permettait à des familles de vivre là. Alors que là, elles vont dans le logement social, parmi tous ces critères d'attribution, il y a aussi le fait que si on est une famille de 5, eh ben, on doit avoir un 5 pièces et donc être capable de payer un 5 pièces. On n'a pas le droit de suroccuper. Et suroccuper, ça pourrait être, je ne sais pas moi, 3 pièces pour 5 personnes, ce qui est quand même possible. On n'a pas le droit non plus, voilà. Et donc, ça réduit encore plus le nombre de personnes possibles qu'on peut loger dans le logement social. Donc, il faut bien vous dire qu'une opération comme ça, indépendamment du fait qu'il y a des logements intermédiaires qui, du coup, ne s'adressent pas aux classes populaires, de toute façon, on va loger infiniment moins de ménages populaires que ceux qui habitaient là déjà avant. Alors, aujourd'hui, les opérations de ce type passent toujours par une étape de relogement. Donc, les gens qui étaient là avant ont été relogés, sauf ceux qui n'avaient pas de bail, ceux qui sont sans papier. Eux, ils sont partis d'eux-mêmes, hein, ils ne sont pas fous, ils ne voulaient pas se faire arrêter. Donc, il faut bien penser que certes, il y a du relogement et la mairie communique pas mal sur le relogement. Et en général, on reloge dans Paris. Enfin, on fait plus qu'on faisait avant de reloger à Perpète-les-Ouailles, etc. Mais malgré tout, on ne reloge jamais tout le monde. Parce qu'il y a tous ceux qui étaient là ou qui squattaient chez un ami. Bon, bah eux, voilà, ils ne sont pas considérés comme des habitants et donc bah, ils se débrouillent. Et en général, ils partent d'eux-mêmes. Mais donc, il y a quand même plein de gens là-dedans qu'on met à la rue par ce genre d'opération, ou qui doivent aller ailleurs, en banlieue, de plus en plus loin.
Voilà, c'était une balade sociologique proposée par Anne Clerval, géographe, et aussi Jean-Pierre Garnier, sociologue, qui menait le second groupe, mais qu'on a pu entendre à la toute fin de cette dernière étape. Cette balade était organisée dans le cadre du FRAP, le Festival des Résistances et des Alternatives à Paris. Ainsi s'achève une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front. Ce soir, l'émission était féminine avec Juliette et Alexandrine. Et nous sommes rediffusés, je tiens à le dire, le vendredi matin à 8h30. Et vous pouvez aussi entendre l'émission dans les archives de notre site internet www.loldf.org. www.loldf.org. À bientôt.